Boileur 85, le réchauffement climatique. Alors, il y a un article de Patrick Lagacé ce matin que j'ai vu sur mon Twitter. Et je vous lis quelques phrases, puis après ça, je décolle. Alors, Lagacé écrit « Le jour où les négationnistes du climat me montreront des milliers d'études publiées dans des revues scientifiques reconnues pour appuyer l'idée que l'homme et la femme ne réchauffent pas le climat, je les croirai. Entre-temps, leur opinion vaut ce que la mienne vaut la mienne sur la composition du troisième trio du Canadien. » Il dit « J'y crois au réchauffement climatique comme je crois au vaccin, parce qu'un consensus scientifique assourdissant d'études publiées de 91 à 2011 pointe vers l'activité humaine comme cause principale du réchauffement de la planète depuis la moitié du 20e siècle. Je crois au réchauffement climatique, je crois que c'est à cause de l'activité humaine, mais je ne crois pas qu'on puisse y faire quoi que ce soit, voilà. Je ne crois pas du tout que 7,5 milliards d'êtres humains puissent changer radicalement de mode de vie de notre vivant pour stopper le réchauffement climatique. » Voilà. Il cite aussi un urbaniste, Meyer Illman, qui a écrit dans le journal The Guardian, journal anglais d'Angleterre, parlait de dangers climatiques quand personne n'en parlait. C'est un gars de 86 ans. Il plaidait pour la réorganisation de la société au nom de l'environnement quand l'environnement n'était pas à la mode. Et il déclare aujourd'hui, même si le monde réduisait son empreinte carbone à zéro, ça ne changerait rien, nous avons dépassé le point de non-retour. C'est très intéressant cette question-là parce que... Parce que ça prouve plein d'affaires. Ça prouve plein d'affaires. La première, c'est que on change notre direction uniquement quand ça fait mal. C'est tout. Si ça fait pas assez mal, on change pas. Et d'un individu à l'autre, au plan personnel, ça varie beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient venir la douleur, qui voient venir l'échec, qui voient venir le cul-de-sac. Puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir le mur carrément en face, là, puis le nez croche. Avant de dire « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, puis je devrais changer de... » Tu sais, tu comprends, là, la bouche à côté dans la fenêtre. Et donc, le climat, ça fait pas assez mal, tu sais. Ça fait pas assez mal d'un côté, puis de l'autre, on a tout bâti une société qui est basée littéralement sur la voiture. L'invention de la voiture, ça a été, là, à peu de choses près, la même chose que l'invention du feu, puis je niaise pas, dans le sens que ça fait exploser les banlieues. Avant, tu avais des campagnards, des gens qui sortaient jamais de leur ferme, puis tu avais des débuts de ville, avec du monde de règle générale pauvre, parce que ça payait pas. Et puis là, la voiture a été inventée, le moteur à explosion, etc., puis là, il y a eu l'étalement urbain, tu sais, puis ça définit littéralement, après ça, la suite de la société, là, faut pas se leurrer, tu sais. Puis c'est ça. Ça fait que moi, je suis entièrement d'accord avec Lagacé, c'est-à-dire, oublie ça, ça sert à rien de parler de ça parce que ça changera pas. Ça changera pas, je veux dire, ça changera pas. C'est les grands combats pour le troisième lien à Québec. Voilà. L'histoire va démontrer que quand les gens ont eu assez mal, ou, c'est toujours A ou B, hein, c'est A, les gens ont assez mal, ou la technologie règle le problème. Il arrive souvent que quand la douleur est assez élevée, socialement, il y a une technologie qui se développe, une recherche de solutions, ce qui est déjà le cas, les voitures électriques, les voitures qui vont se conduire de façon autonome, etc. Ça peut réduire une partie des effets de serre quand les voitures vont être conduites de façon autonome, parce que puis ça s'en vient, OK, c'est pas genre juste dans les films, ça s'en vient. Probablement de notre vivant, là, d'ici quelques années, même pas des décennies, tout le monde va se rallier à l'auto qui se conduit tout seul. C'est ça va faire un énorme changement. C'est-à-dire que, de un, les stationnements vont être rendus désuets. Ça ne servira à rien d'avoir des stationnements parce que ton auto va te porter à quelque part puis elle va se reconduire toute seule. Deuxièmement, ça va probablement servir à rien d'avoir une voiture. Parce que, bon, peut-être quelqu'un va dire « Moi, je veux avoir une voiture, je veux conduire pareil », mais ça se peut qu'un jour, il y ait une interdiction qui se développe à ça parce que si c'est... beaucoup plus sécuritaire d'embarquer dans une voiture autonome, ce qui va être le cas, ce qui va être littéralement le cas. Je veux dire, il n'y a pas de gros porteur en avion qui est conduite à mitaine, là. C'est tout avec des pilotes automatiques, on se comprend, parce que c'est juste mieux. Mais ça va être pareil. Ça fait que ça se peut que la première étape, ça va être des voitures autonomes. Après ça, on va se rendre compte qu'il y a une majorité de voitures autonomes, puis ceux qui vont vouloir continuer... à conduire leur auto, ben il va avoir un jour une interdiction parce qu'ils vont être plus dangereux que les voitures autonomes. Et en plus, ça va régler le trafic. Parce que le trafic, c'est dû beaucoup au fait que les voitures entre elles ne se parlent pas, les conducteurs ne se parlent pas. Ça fait que quand vous voyez, par exemple, 20 voitures alignées à un feu de circulation, quand la lumière tombe verte, c'est pas les 20 voitures qui partent en même temps. Vous l'avez expérimenté. La première décolle, la deuxième, la troisième, la quatrième, bon. Là, les 20 voitures vont se parler. C'est-à-dire que quand la lumière tombe verte, tout à coup, avec des fractions de secondes entre chacune, tout le monde décolle. Vout! Ça fait qu'il n'y en a plus de trafic. Parce que c'est l'humain qui cause le trafic, si on veut, c'est pas le nombre de voitures. Si tout était parfaitement synchronisé, il y aurait beaucoup moins de trafic. Je te dis pas qu'il n'y en aurait pas du tout. Mais bref, il y a des vraies solutions qui existent, mais ils passeront pas par conduire ton gros char tranquille, le fun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais d'ici là, ça va continuer. Et d'après moi, on a dépassé le seuil. Alors récemment, il y avait d'autres études. Ça sort quasiment une par jour depuis à peu près un an ou deux. Là. Ça s'accélère tout le temps, les mauvaises nouvelles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis... Il y avait justement une nouvelle qui disait que on s'enligne vers un espèce de perfect storm. Alors, c'est quoi un perfect storm? C'est quand deux ou trois tempêtes dans l'océan se rencontrent ensemble, ce qui crée un espèce de turbo-ouragan qui est plus fort que tout parce que l'énergie créée par une alimente l'autre, etc. Bon. Ben là, il y a des perfect storms environnementaux qui se font, mais négatifs. C'est-à-dire que la couche d'ozone est plus mince, ça fait réchauffer une partie de la banquise en Antarctique, la banquise fond et fait élever le niveau de l'eau amène le CO2. Alors, il y a tout un paquet de trucs d'enclencher que même si, comme le disait le bonhomme, là, le monsieur Hillman, là, dans le journal The Guardian que je vous citais au début, que même si tout à coup on disait « OK, on arrête tout », on arrête les émissions de méthane, parce que vous savez que le méthane que dégagent les animaux pour l'agriculture, là, les animaux d'élevage, donc les vaches particulièrement, c'est plus dommageable, supposément, que ce que les voitures dégagent. Ça fait que il y a des grandes causes qui sont reliées, je le répète, à la façon qu'on vit, qu'on prenait comme acquise. C'est-à-dire vivre en ville, vivre en banlieue, se déplacer à notre convenance quand on veut avec notre auto, manger de la viande, let's go, let's go, let's go. Pendant des années, voire des décennies, pas des siècles, parce que c'est assez récent quand même, la voiture, c'est dans le début des années 1900, mais pendant des décennies de temps, on pigeait dans les ressources de la planète comme si de rien n'était. Et la planète, elle a un buffer. La planète, elle a un buffer. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, est capable de compenser, parce que le système, la nature est ainsi faite, il n'y a rien qui est particulièrement rigide, le corps humain en est un exemple. Vous marchez, ça donne pas de coups dans la colonne puis dans la tête, parce que c'est amorti, puis si on a une grippe, on a des antivirus, bon, blablabla, c'est un principe très, on appelle ça organique, là, c'est vivant, dans le sens que ça s'ajuste, et la société elle-même, tu sais. Alors, il y a une limite à ça. À un moment donné, tu as dépassé la limite du buffer. Le buffer, il n'en peut plus. Il ne peut pas compenser pour ce que tu fais. On est entré là-dedans, c'est clair. C'est démontré. Puis ça date pas d'hier. Là, le seul suspense, ben, il y a deux suspens. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un lien de cause à effet direct. De dire, par exemple, les émanations de méthane qui viennent de l'agriculture ou de l'élevage ont tel effet... non, si ça rentre après ça dans la théorie du chaos, parce que c'est énorme, toutes les interactions qu'il y a sur la Terre à différents niveaux qui font que tu peux pas avoir un couloir direct. Mais c'est pas une raison pour ne pas croire que c'est l'activité humaine qui crée le dérèglement. Je veux dire, de toute façon, je l'ai dit mille fois, j'ai pas besoin d'avoir d'études précises. J'ai juste besoin d'être logique, puis de comprendre que la planète, OK, la nature, avait pas prévu, OK, pensez-y, là, la nature avait pas prévu qu'une de ces espèces... Elle a évolué très, très différemment des autres. En partant, ça, c'était pas prévu, là, excusez-moi. Là. C'est que le cerveau allait devenir un élément aussi fort pour dominer le reste de la planète. C'est ça, dans le fond, qui distingue l'homme. C'est pas sa grande spiritualité, on s'en tape. C'est le fait qu'il est plus brillant que les autres créatures. Donc, son cerveau s'est développé, puis tout à coup, hop, ça a été encouragé, ça. C'est du darwinisme. Bon. Alors, ça a été la première affaire. Mais surtout, c'est que non seulement la planète n'avait pas prévu une espèce de style humain, à beau l'avoir créé, elle n'avait pas prévu comment il allait évoluer, mais n'avait certainement pas prévu que l'humain en question allait découvrir que si tu drilles tant de kilomètres dans le sol, tu trouves des os de dinosaures qui se sont transformés en pétrole, puis ça, ça brûle, puis avec ça, on peut créer des moteurs. Voyons donc. Tu as juste besoin de regarder ça pour comprendre qu'il n'y a rien qui marche dans cette affaire-là. À vrai dire, quand on dit qu'il faut sauver la planète, c'est faux. Il faut sauver l'humanité. Parce que si l'homme disparaît demain, la planète se porte en pleine forme, là. Puis il y a un livre qui avait été écrit qui disait qu'est-ce qui arrivait si l'homme disparaissait sur une échelle de plusieurs milliers d'années, en comptant le l'an 1, l'an 10, l'an 100. Puis là, tu vois tout, il explique, là, les buildings s'effondrent, les aqueducs craquent, la végétation reprend son cours. Puis en 1 million d'années, selon le livre, je me souviens, en 1 million d'années, ce qui est rien à l'échelle de l'histoire de la planète, là, ceci étant dit, en 1 million d'années, la planète revient exactement où elle était avant le début de l'humanité. Elle revient à la même place. Parce que c'est ça la nature normale. C'est des animaux, des insectes, de la végétation, des roches. C'est nous autres l'anomalie de la façon qu'on a évolué, à cause que le cerveau a évolué de cette façon-là. Fait que là, moi, pour moi, ça, c'est banal, là. C'est pas sujet à opinion, là. C'est comme, c'est ça. La seule personne qui peut me contredire, ce serait un créationniste. Quelqu'un qui dirait non, 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 c'est l'arche de Noé, puis c'est le bon Dieu. Bon, ben écoute, si tu veux croire à ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait que moi, je suis d'accord avec l'agacé qu'il n'y a rien à faire. Oubliez ça. Dans le fond, polluez comme vous voulez ou polluez pas. Moi, je suis pas un pollueur. Je recycle. J'ai même pas d'auto. Je vais pas changer. Mais je suis d'accord avec lui. Ça sert absolument à rien. Il y a toujours un zoin-zoin sur Twitter ou à quelque part pour venir dire oui, non, mais saviez-vous que? C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance. C'est de constater, c'est de lire. À la rigueur, occupez-vous même pas de la température. Laissez faire. Il faut faire une différence entre la météo et le climat. Le climat, c'est sur du long terme. La météo, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui. On a eu un été très chaud, puis dans plein de places dans le monde. En Suède, ils ne pouvaient plus, là. En Suède, ils sont même pas équipés pour les feux de forêt qu'ils ont eu. Ça les a pris par surprise. Puis il semblerait que les 5 prochaines années vont être à cette image-là, mais c'est peut-être les 100 ou les 1000 prochaines années, où tout à coup, il va peut-être avoir un stretch d'été très frais. Mais je m'en fous. C'est pas le point, c'est pas ici maintenant. Le point, c'est que manifestement, il y a des gens qui s'y connaissent, qui disent « voici ce qui arrive ». Puis il y a eu une accélération de ce phénomène-là depuis le milieu du 20e siècle, donc dans les années 1950 autour. Puis ça a directement rapport avec l'industrialisation, puis blablabla. Bon. Ça fait que c'est décourageant parce que, à quelque part, tu sais, je vois à quel point les gens sont déchaînés de politique dans le temps des élections. Puis pensez-y bien comme il faut, là, OK? Peu importe votre âge. Que vous soyez dans la jeune vingtaine, que vous soyez à 80 ans ou à 50, vous vivez aux 4 ans des élections fédérales, vous vivez aux 4 ans des élections provinciales. Où pouvez-vous vraiment affirmer que un gouvernement a fait des changements drastiquement différents par rapport au précédent? Quand est-ce que vous pouvez dire que c'est les gouvernements qui ont réellement façonné la société dans laquelle vous vivez? De façon, là, je parle flagrante. Puis la réponse, je suis désolé, mais c'est non. C'est-à-dire, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est-à-dire que la seule affaire politique qui aurait pu arriver dans l'histoire du Canada depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est la séparation du Québec. Où là, il aurait pu vraiment y arriver. Soit un phénomène fantastique, soit un désastre épouvantable, je le sais pas. Mais là, vraiment, il y aurait eu quelque chose qu'on aurait pu dire. Ce gouvernement-là de René Lévesque a vraiment incité les gens à se séparer du reste du Canada. Ils les ont convaincus et il s'est passé quelque chose de déterminant. En dehors de ça, je suis désolé, que ce soit le Parti québécois ou que ce soit les libéraux, que ce soit n'importe qui, je dis pas que c'est mauvais. Je pense qu'au contraire, la province va très bien, le pays va très bien. Moi, je trouve qu'on est extrêmement cynique envers un pays, puis particulièrement le Québec, puis particulièrement Montréal, entre autres, au niveau de la frénésie ici économique est palpable, là. Puis, je veux dire, après ça, on peut la critiquer même. C'est-à-dire que le prix des condos, c'est rendu débile. Monsieur, madame, tout le monde peut même pas s'en offrir. Ça marche pas, cette affaire-là. Puis, d'ailleurs, il y a un article dans Le Monde qui parlait qu'à Paris, là, c'est fou à quel point les maternelles ferment. Puis, les écoles primaires perdent 2-3 000 étudiants. À Paris, 2-3 000 étudiants par année depuis quelques années. 2 à 3 000. Puis, des maternelles qui ferment. Pourquoi? C'est clair. Tu peux pas être une famille à Paris. Ça n'a pas de sens. À moins que tu acceptes de vivre dans un 2,5, je veux dire, ça non. Ça fait que cette flambée-là immobilière dans toutes les grandes villes a fini par avoir aucun rapport avec une gestion sociale normale. Je te parle pas d'HLM, là. Je te dis juste que c'est disproportionné les prix que c'est en train de devenir dans les grandes villes uniquement à l'usage des propriétaires qui louent ou qui peu importe ou qui s'est rendu avec Airbnb, ça aggrave le phénomène. Donc, personne n'est capable de dire « moi, je veux une famille », imagine, ce qui est comme la base. Puis on va s'en aller à l'extérieur. On peut pas rester dans... Ça fait que ça va faire des centres-villes. Mon chum, il arrive de Toronto, là. Il a vécu 3 mois à Toronto cet été pour un contrat. Puis il dit, c'est invivable. Il dit, on est deux, moi et ma femme, dans 650 pieds carrés. Ça vaut 700 000 $ avec 1 000 $ par mois de frais de condo. C'est littéralement le double de Montréal pour les frais et pour le coût. Le double. La ville d'à côté, là. Ça fait que si ça s'en vient ici à Montréal, ça va être la même affaire. Ça va être comme fuck, c'est invivable. À part les chanceux qui ont réussi à embarquer dans la vague au début, pour les autres, là, ceux qui s'en viennent, ça va être, on peut pas vivre à Montréal. Ça fait que t'as beau faire des petites incentives de patente, de, ah, on vous donne ci, ou on fait des parcs. Ça changera rien, on peut même pas se loger. Ça fait que c'est toutes des affaires puis pourquoi je vous parle de ça? J'ai l'air de m'égarer, mais pas du tout. En tout cas, j'ai toujours l'air de m'égarer. Mais je vous parle de ça parce que les gens sont fascinés de politique, puis ça intervient 4-5 fois par jour sur leur... Puis là, ça appelle dans les lignes ouvertes, puis là, talalala. Puis dans la vraie vie, là, si vous prenez un peu de recul, peu importe qui va gagner, ça va être à peu près la même affaire. C'est-à-dire, ça va rouler, il va y avoir un qui va avoir des politiques un peu plus X, un peu plus Y, votre compte de taxes va être à peu près le même. Oubliez ça, là. Dans la vraie vie, là, il n'y aura pas de changement, c'est pas vrai. Puis si vous voulez avoir un changement, quel changement vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous trouvez qui est insupportable de vivre au Québec puis au Canada? Posez-vous des questions avec un petit peu de hauteur. Laissez faire ce qui vous emporte, là, puis c'est n'importe quoi, là. Ça fait que pendant que tout le monde s'intéresse à la politique comme si c'était donc important en plus, ah là, ça, c'est important. Au final, ça change rien, mais c'est très important de s'y intéresser, bravo. Qu'est-ce qui arrive au niveau de la planète? Ça, tout le monde s'en sacre. Ben c'est ça. C'est rendu que des chroniqueurs, comme Lagacé, qui ont une tête sur ses épaules, finissent par dire, sais-tu quoi? Moi, j'ai abandonné. C'est tout. Voilà, il arrivera ce qui arrivera. Je pense que ce qui va arriver, ça va être pas chic. Je pense que de notre vivant, ça va être pas chic. C'est qu'imaginez après. Puis tout le monde pourra un peu se blâmer de dire, non, pendant ce temps-là, on avait des préoccupations beaucoup plus importantes... Puis c'est ça. Ça fait que, voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut regarder le réel. Ça a beau être pessimiste, je m'en fous. La réalité, c'est que moi, je suis quelqu'un de très heureux. Franchement, parce que je suis né avec le bonheur facile, c'est même pas grâce à mes mille et une belles façons de voir, c'est pas vrai. Ça, il y a des gens qui ont le bonheur facile, d'autres plus difficiles. Dans mon cas, j'ai le bonheur facile. Je vais avoir vécu une très belle vie. Ça va se poursuivre dans ce sens-là, j'en suis convaincu. Mais j'ai vraiment peur... que la planète va devenir invivable. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler pour ceux qui vont venir après. J'ai aucune idée. Puis est-ce que tout à coup, une technologie, parce que ce n'est pas un comportement, Lagacé a raison, personne. 7 milliards d'individus vont pas changer leur comportement. Puis de toute façon, la majorité de la planète n'ont même pas les moyens de changer de comportement. C'est pas compliqué, là. L'Afrique au complet n'a pas les moyens de changer de comportement. Ça fait que ils peuvent pas. En plus, ils se font ramasser toutes leurs ressources depuis l'Europe et les États-Unis, puis de chez nous aussi, depuis le début des temps. Puis ça fait 60 ans qu'ils sont libres, puis ils sont décolonisés, puis ils savent pas quoi faire avec ça. Tant qu'à moi, c'est un continent cul-de-sac à mort. Puis ça fait des enfants à côté, puis ça se répand partout. Ça fait que, je veux dire, écoutez, mettez-vous à leur place. Quand une fois que t'es né, là, ça te tente pas de mourir, on se comprend. Ça fait qu'ils cherchent à faire le mieux possible, mais... Je vous le dis, là, à l'échelle planétaire, tout le monde s'en fout. Mais je suis très content de cet article-là de Lagacé qui, à quelque part dans sa désillusion, amène peut-être une petite couche supplémentaire de prise de conscience parce que c'est zéro. Je suis désolé, c'est le même. Salut.